franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 13h. Le journal Alain Passerelle, bonjour.
Bonjour. Au sommaire de cette édition, un 15 août pas tout à fait comme les autres, les chrétiens qui célèbrent aujourd'hui la fête religieuse de l'Assomption ont pour beaucoup, certains en tout cas, toujours en tête l'assassinat tout frais du prêtre de Saint-Étienne de Rouvray. Nous irons à Notre-Dame de Paris, puis à Lourdes. Une rixe violente, samedi en Corse, entre habitants de Cisco, près de Bastia, et des membres de la communauté maghrébine. Au départ, une histoire de burkini. Hier soir, le maire de la ville l'a finalement interdit. Jean-Pierre Chevènement est partant pour présider la Fondation de l'Islam de France, que Manuel Valls veut faire renaître, et déjà une première polémique, il faut faire, a dit Jean-Pierre Chevènement, des Français musulmans, des Français comme les autres, ça n'a pas plu à tout le monde. Le classement annuel dit de Shanghai des universités, les états-uniennes trustent les premières places, la première française est 39e. Invité de ce 13h, le président de la Ligue européenne des universités de recherche, Alain Berets, il questionne la fiabilité de la méthode utilisée. Dans cette édition également, les JO de Rio et la troisième médaille d'or d'Usain Bolt, acquise cette fois autant par une préparation spécifique que par le talent pur. Enfin, un objet caché derrière Neptune et qui ne fait rien comme les autres, paraît-il. Le temps, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Alain.
C'est l'astre solaire, en tout cas cette fois, qui fonctionne à plein.
Exactement, on attend même un pic de chaleur aujourd'hui, jusqu'à 36 degrés à Bordeaux et Cognac, voire plus dans le sud-ouest. Il fera 34 degrés à Toulouse et Lyon, 32 pour Dijon et Rennes, 29 degrés à Paris et Metz. Dans le sud-est, le vent venu de Méditerranée modère un peu la chaleur près des côtes, avec 31 degrés pour Nîmes, mais dans l'intérieur du Var, on ira quand même jusqu'à 34 degrés à Draguignan. Et puis les températures seront un cran en dessous près de la Manche avec 22 degrés pour Cherbourg et 24 degrés en Baie-de-Somme.
Pas seulement chaud donc, mais beau.
Exactement, pour les chanceux qui sont encore en week-end, ils profiteront d'un beau soleil cet après-midi. Près du golfe du Lion, le vent marin apporte aussi quelques nuages côtiers sur les plages du Bas-Languedoc. Entre le Limousin, le Morvan et le Jura, quelques bancs nuageux pourraient laisser échapper quelques rares ondées. On aura des petites averses qui vont se développer sur le relief du sud, notamment le long des Pyrénées. Cette instabilité va s'accroître au fil de l'après-midi avec un risque d'orage en fin de journée et en soirée.
Le 15 août est certainement, avec Pâques, la fête religieuse catholique la plus célébrée en France, célébrée par ceux qui croient en l'Assomption de la Vierge Marie, c'est-à-dire le moment où, selon le dogme, la Mère du Christ rejoint le ciel. Elle revêt cette année une dimension particulière avec l'assassinat récent du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, pour la première fois en France au nom du djihad et de l'État islamique des musulmans fanatiques, certes, mais musulmans, s'en sont pris à des catholiques. Agression terrible dans un pays à la tradition chrétienne que certains d'ailleurs revendiquent régulièrement dans leurs discours politiques. Le président de la Conférence des évêques de France, Mgr Georges Pontier, avait appelé les fidèles à prier pour la France aujourd'hui face aux épreuves qu'elle traverse et à faire sonner les cloches à midi. Celles que vous entendez, ce sont celles de Notre-Dame à Paris où vous vous trouvez, Philippe Rendé.
Oui, en groupe, en couple, entre amis, en famille, en espagnol, en anglais, en chinois ou en français, autour de nous ici sur le parvis de Notre-Dame, des centaines de fidèles se pressent depuis ce matin pour rentrer dans la cathédrale la plus connue de France. C'est le cas de Marie-Thérèse et Louis, leur fils et prêtre. Alors forcément, ils ont une pensée en ce 15 août 2016 pour le père Hamel assassiné il y a quelques semaines.
Il faut pardonner. La violence engendre la violence et il faut rester unis, tous unis.
Je suis d'accord avec mon épouse pour dire qu'il faut pardonner. Il ne s'agit pas pour autant de se comporter en bisounours. Il faut aussi nous défendre, il faut savoir se défendre. Et le pardon donne la sérénité. Mais pour autant, je pense qu'on peut pas non plus résumer la fête de l'Assomption à Daesh et aux événements qui se sont produits. Pour nous, le 15 août est une fête de rassemblement et à laquelle nous participons tous les ans.
Un peu plus loin, Marie est-elle allée déposer une bougie avant de prier la Vierge pendant de très longues minutes.
La France est menacée, elle n'est pas aimée par tout le monde, et prier et demander à la Sainte Vierge de garder notre sang-froid, pas comme en Corse par exemple, et de nous aider à rester calme, ça fait du bien, ça rassure. Ça peut paraître bête à ceux qui ne le font pas, ça fait du bien. Et même si ça fait du bien aux autres et pas à moi, c'est bien qu'on soit nombreux. Le message médiatique est là. Ensemble.
Voilà, ensemble, les catholiques français, les catholiques du monde entier de passage à Paris sont en train de prier au moment où je vous parle. La messe a débuté à 12h45 avant une nouvelle messe de l'Assomption. Ce sera ce soir à partir de 18h30.
Philippe Rendé avec François Rivalan. S'il est un endroit emblématique pour célébrer le 15 août en France, c'est bien Lourdes, là où Bernadette Soubirou affirme avoir vu la Vierge Marie apparaître à plusieurs reprises. 25 000 pèlerins étaient attendus sous haute sécurité pour une messe en plein air, célébrée par le cardinal Barbarin, l'archevêque de Lyon, l'une des personnalités les plus influentes du clergé français. La cérémonie était, selon ses propres termes et les termes catholiques, placée sous le signe de la miséricorde.
En terminant cette homélie, je pense à notre pays et à la France, bouleversée par tant de souffrances dans ces derniers mois, notamment depuis janvier 2015. Vous le savez comme moi, et encore cruellement atteint le mois dernier, en juillet. Et je voudrais me retourner vers tous les croyants, vers tous les chrétiens, vers tous ceux qui aiment le Magnificat, tous ceux qui lisent l'Évangile. Mais me tourner aussi vers les Juifs, me tourner aussi vers les musulmans qui aiment Marie. Nous pouvons reprendre les mots de celle que nous fêtons aujourd'hui, la toute petite, toute lumineuse Vierge Marie. Frères et sœurs, dans le Magnificat, elle dit deux choses, quoi. La première, c'est que Dieu est grand. Et la seconde, c'est cela, c'est que son amour s'étend d'âge en âge. Mais nous, nous devons dire et affirmer et montrer que sa miséricorde sera victorieuse. C'est la seule chose que nous avons à dire dans notre foi.
Le cardinal Barbarin, propos recueillis par Leïla Meshaouri. C'est à l'aune de ce contexte anxiogène interreligieux qu'il faut peut-être regarder aussi ce qui s'est passé en Corse ce week-end même. Si les échauffourées entre habitants de l'île, Corse de souche comme il s'affiche parfois, et communauté maghrébine ne sont pas les premiers du genre. Au départ samedi, une violente rixe sur une plage de Cisco, non loin de Bastia, entre les membres de trois familles d'origine maghrébine et des jeunes de la région. Pas question d'attendre les résultats de l'enquête, quelques 500 personnes qui s'en vont manifester leur colère dans un quartier de Bastia, ensuite donc à forte population maghrébine, pour bien montrer, selon leurs propres termes, qu'on est chez nous. Le maire socialiste de Cisco a réuni hier soir son conseil municipal et pris un arrêté interdisant ce maillot de bain qui aurait été finalement à l'origine de la rixe à Cisco, où tout était calme ce matin, le reportage de Maureen Suignard.
Depuis samedi soir, les choses se sont en effet apaisées à Cisco. Il n'y a pas eu de nouvelles violences ici. Mais aujourd'hui, les circonstances de l'affaire restent encore floues. Selon les habitants de Cisco rencontrés ce matin, des touristes auraient pris en photo des femmes vêtues de burkini, ces maillots de bain qui couvrent entièrement le corps. Des jeunes du village auraient ensuite été accusés de faire la même chose et la situation aurait ensuite vite dégénéré. Les habitants affirment avoir protégé les jeunes du village. Hier soir, en urgence, le maire a organisé un conseil municipal extraordinaire. Il a décidé d'interdire le burkini sur sa commune et les habitants rencontrés ce matin ont l'air plutôt favorables à cette décision. Celui que nous allons entendre souhaite rester anonyme.
Le cas est revenu, oui, mais on n'est peut-être pas à l'abri d'autres incidents. L'arrêté municipal que le conseil municipal de Cisco a pris va peut-être permettre d'éviter d'autres problèmes. Voilà, y a pas de, on ne parle pas de racisme, mais d'éviter peut-être ce genre de phénomène qui engendre des situations qui après peuvent être incontrôlables, effectivement. Et ce que tout le monde regrette. Tout ce qui peut permettre d'apaiser les choses vont dans le bon sens.
Ce midi, la plage est très calme et ici à Cisco, on souhaite surtout passer à autre chose. À Bastia, Clémence Bonfils, Maureen Suignard, France Inter.
Le sociologue Jean Viard était ce matin l'invité de Pierre Veil sur France Inter. Pour ce subtil observateur de la vie en France, qui constate comme tout le monde un climat qui se tend avec les membres de la deuxième religion du pays, la population française implantée depuis longtemps n'a pas toujours été à la hauteur de l'empathie et l'hospitalité qu'elle est censée prôner, comme le dictent d'ailleurs les enseignements du Christ.
En 1906, quand on a fait le Concordat, il y avait déjà 2 millions de musulmans, sauf qu'ils étaient en Algérie. Alors l'Algérie, c'était la France, mais pas pour les musulmans. Donc si vous voulez, là, on a un retard énorme. Alors, je voulais dire, ce n'est pas une réponse au terrorisme. Mais disons-nous, on n'a peut-être pas été tout à fait à la hauteur depuis un certain temps, donc faisons une place. On est devenu une société diversifiée, mais on n'est pas arrivé à le désirer. Il faut que ce pays accepte sa diversité comme une force, et pas comme une souffrance, si vous voulez. Et ça, je crois que c'est ça la question absolument fondamentale. Il faut remettre à plat un certain nombre de nos réflexions. Il ne suffit pas d'aller à l'école de la République pour forcément devenir un républicain profond, parce que ça dépend de l'école, ça dépend où il est, le décrochage scolaire des gamins de 12-13 ans, c'est des dizaines de milliers de gamins. Donc, il faut regarder la réalité. Parce qu'à un moment, sinon, on dit aux gens République, République, et ils disent, c'était pas pour moi.
Que faire pour apaiser les tensions actuelles de ce type et de manière durable? Avec la volonté de mieux intégrer l'islam dans la République, le gouvernement souhaite notamment relancer un projet mis sur les rails en 2005 par Dominique de Villepin, la Fondation pour les œuvres de l'islam de France. Et c'est Bernard Cazeneuve qui a proposé que Jean-Pierre Chevènement la préside l'ancien ministre de l'Intérieur de Lionel Jospin, 77 ans, un peu oublié politiquement, mais qui toute sa vie a parlé avec ferveur, de République, dit ce matin dans les colonnes du Parisien Aujourd'hui qu'il acceptera la tâche, Laurence Perron.
Alors un peu absent des radars politiques, certes, mais François Hollande n'a pas oublié, lui qui était premier secrétaire du PS en 2002, que les 5,33% du Tché ont fait perdre la qualification au second tour de Lionel Jospin. Jean-Pierre Chevènement reste une voix très respectée à gauche, sous-entendu plus à gauche, et il est sans doute habile de la part du président de s'aliéner une personnalité de ce calibre, qui plus est sur un domaine de compétences qu'on peut difficilement lui contester. Dès 1999, il le dit, alors ministre de l'Intérieur, j'avais lancé une grande consultation sur l'islam de France. La République, la laïcité et la citoyenneté sont les combats de Jean-Pierre Chevènement, et c'est dans le respect de ses principes qu'il ébauche son programme. Des financements étrangers prohibés, ou en tout cas un mécanisme de transparence, des fonds français qui pourraient éventuellement provenir d'une taxe sur la viande halal. Sur les questions du voile, du burkini ou des repas dans les cantines, il est prudent. Le conseil que je donne dans cette période difficile est celui de la discrétion. Il n'entend nullement s'immiscer dans la sphère du religieux et rappelle que la laïcité n'est pas tournée contre la religion. Enfin, que si nous aimons la France, il faut faire des Français de confession musulmane, des Français comme les autres.
Alors justement, cette réaction d'un des 40 signataires musulmans qu'il y a une semaine ont appelé de leur vœu la renaissance de cette fondation. Il est juriste, il s'appelle Nadir Saïfi et il n'a pas aimé la phrase que vous venez de citer, Laurence.
C'est extrêmement violent et c'est extrêmement humiliant pour les Français de confession musulmane. Ça illustre la manière dont toute cette affaire a démarré, c'est-à-dire on démarre par une nomination type colonial, on continue avec des propositions type colonial. C'est-à-dire qu'on nous accuserait, nous, musulmans, de ne pas être intégrés dans la nation, dans ce pays, dans cette société, et qu'il faudrait certainement nous civiliser. Non, mais c'est du grand n'importe quoi, et Chevènement s'est arrêté à 62, hein, c'est pas possible. Hein. Là, il est dépassé, et ces propositions-là sont extrêmement insultantes, humiliantes et insultantes. Vous savez, on est dans une société qui s'est extrêmement radicalisée. C'est pas des propositions qui apaisent ou qui font en sorte qu'on a envie de travailler avec lui. Hein. Franchement, si c'est ça, ça ne m'intéresse pas du tout et ça ne nous intéresserait pas de travailler avec ce monsieur.
Alors Jean-Pierre Chevènement, sollicité par vous, Laurence, réfute absolument l'analyse qu'on vient d'entendre.
Évidemment. Oui, alors il n'avait pas entendu cette réaction qui est quand même d'une certaine violence. Être musulman, ça n'est pas une nationalité, c'est une confession de gens qui sont français, d'origine, mais qui peuvent être maliens, algériens. Jean-Pierre Chevènement, je cite ses propos tels qu'il me les a écrits, explique cette phrase en disant « L'avenir de la France dépendra de sa capacité à intégrer de nouveaux citoyens à égalité de droits, à égalité de liberté de culte et dans le respect par tous de la loi républicaine. »
Laurence Perron.
Inter 13. Alain Passerelle.
Voilà 14 ans maintenant que le classement dit de Shanghai attribue de bonnes et moins bonnes notes aux universités du monde entier. Il est paru ce matin, ce classement, et une nouvelle fois, Sophie Becherel, ce sont les universités américaines qui raflent les premières places.
Harvard, Stanford, Berkeley, c'est le tiercé gagnant. À la quatrième place, une université britannique, Cambridge, puis encore des universités américaines. C'est un véritable trust anglo-saxon. La première université française arrive à la 39e position sur 500 et c'est Pierre et Marie Curie à Paris. Mais dans le top 100, on trouve aussi Paris Sud à la 46e place et l'École normale supérieure à la 87e place. Au total, 22 universités françaises figurent dans ce palmarès, exactement comme l'an passé. Citons par exemple Bordeaux, Strasbourg, Paris Diderot, Joseph Fourier à Grenoble, Paris Descartes, Claude Bernard à Lyon. En Europe, le Royaume-Uni, la Suisse et l'Allemagne sont devant nous. Le classement de Shanghai est bâti sur 6 critères, tous privilégiant la recherche et les sciences exactes, si tant est qu'on puisse les appeler comme ça, c'est-à-dire la physique, l'informatique, les mathématiques, la chimie ou encore la médecine. Ce qui compte, c'est le nombre de prix Nobel ou de médailles Fields, l'impact de ces savants à l'international, le nombre de publications dans Nature ou Science, deux revues de prestige. Puisque les sciences humaines en sont exclues, nombre de disciplines et d'excellences académiques passent aux oubliettes. Pour Thierry Mandon, le secrétaire d'État à la recherche et à l'enseignement supérieur, c'est ce qui pénalise notamment notre pays.
Sophie Becherel, vous restez avec nous. Bonjour Alain Béretz.
Bonjour.
Vous êtes président de la LERU, c'est la Ligue européenne des universités de recherche. Vous êtes également président de l'université de Strasbourg. Universités de recherche ne font pas toutes de la recherche, les universités ?
Les universités font toutes de la recherche, mais il y en a et ça rejoint la question.
Certaines plus que d'autres.
Voilà, c'est une question de division si on prend la métaphore du football. Il y a des équipes de Ligue des Champions, il y a des équipes qui font du très bon sport dans des divisions inférieures.
Alors, puisque vous maniez la métaphore sportive, hein, c'est un peu le classement des JO, là, on est loin de la médaille d'or, on n'est même plus en éliminatoire. Hein.
Oui, mais la métaphore sportive s'arrête à l'usage du chronomètre. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chronomètre pour juger de la qualité d'une université. C'est un ensemble de facteurs et le chrono Shanghai, il est un peu poussif et il retarde et il avance souvent.
Alors vous allez nous dire comment.
C'est-à-dire, en gros, il faut bien dire que il y a deux constats. Effectivement, et vous l'avez dit dans votre sujet, Sophie Becherel, tout à l'heure, les Français, on n'est pas très bien situés et il faut réagir. Ce classement ne fait pas honneur à la science française et nous interpelle. Ceci étant dit, ça n'est pas sur un classement qu'on juge de la qualité des universités. Vous avez cité, je vais pas y revenir dans le sujet avant, les éléments techniques qui montrent que ce classement est imparfait, mais au-delà de ça même, un classement pour juger de la complexité d'une université, un seul classement, ça n'est pas suffisant. Si je vous demande aujourd'hui quelle est la meilleure voiture du monde ou la plus belle œuvre d'art du monde, je pense que vous allez me rétorquer que cette question est stupide.
Vous n'êtes pas un peu mauvais joueur, hein, par hasard ?
Non, pas du tout, parce que bon, il se trouve que cette année, on a perdu des places, d'ailleurs je ne l'explique pas vraiment. Nous avons gagné 8 à 9 places l'an dernier, nous avions la plus forte progression européenne pratiquement dans le classement l'an dernier, et nous n'en avons pas fait, mes critiques étaient tout aussi acerbes. Donc effectivement, vous parlez de la Ligue européenne des universités de recherche, elle comprend les mieux classés en Europe, vous avez cité Oxford et Cambridge tout à l'heure, Zurich, enfin toutes ces grandes universités européennes font partie de la Ligue que je préside, et effectivement, la Ligue elle-même s'élève contre ces classements quand ils s'apparentent uniquement à des classements sportifs, à des classements monovalents. Il faut vraiment voir l'université comme un point important. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup aussi, c'est la réaction des médias. Alors bien sûr, rassurez-vous, je suis pas sur France Inter pour critiquer les médias, mais les médias nous parlent beaucoup plus du classement de Shanghai que des autres réussites des universités. Et je crois que là, il y a un biais. Si seulement on pouvait parler des universités toute l'année, comme on parle de nous au moment du classement de Shanghai, on aurait peut-être aussi une manière de mieux défendre ces universités qui en ont quelquefois bien besoin.
Alors, Sophie Becherel le fait régulièrement.
Ah oui, je sais.
Quels critères, selon vous, pourrait-on utiliser pour justement montrer l'excellence française ? On sait qu'il y a eu un projet de classement européen qui n'a toujours pas abouti. Comment faire valoir les qualités hexagonales ?
Écoutez, je vais continuer dans la métaphore. Quand on est malade, on ne change pas le thermomètre. Je suis pas sûr qu'il faille changer le mode de classement. Plus il y a de classements, chaque classement a ses biais. Donc il est vrai que si vous prenez tous les classements de la création, eh bien Harvard est toujours en tête et les universités françaises sont plus ou moins à la position où elles sont. Donc je crois qu'il faut aussi réaliser que au-delà de la critique que je fais légitimement des classements, aujourd'hui dans ce classement de Shanghai, les universités françaises elles ont plutôt baissé globalement et pas que Strasbourg. Et vous avez, et j'ai pas de boule de cristal, vous avez une arrivée massive des grandes universités asiatiques et en particulier chinoises. Et dans quelques années, le classement ne sera plus un classement américain et européen. Donc clairement. Je crois que ce classement, on doit réagir autrement que par des mesures administratives du type mieux prendre en compte les regroupements d'universités. Il s'agit de comparer, par exemple, la dépense par étudiant, puisque vous citiez les premiers, à Harvard ou à Cambridge, et la dépense par étudiant en France.
Oui, c'est pas du tout la même, hein, c'est sûr.
Et voilà, et je pense qu'on n'a rien sans rien. Nous avons d'excellentes universités, nous avons des chercheurs remarquables. J'allais même dire que si on faisait un classement de l'efficience aujourd'hui des universités françaises, c'est-à-dire en gros de la rentabilité de l'investissement public, je pense qu'on est largement devant. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, si on considère que les universités sont des atouts pour notre société, et j'entendais le sujet juste avant sur l'islam, voilà un excellent exemple. C'est à l'université qu'on va innover sur ces sujets-là. C'est à l'université qu'on va proposer des solutions. C'est à l'université qu'on va former les cadres cultuels et culturels. Eh bien, si on n'en a pas les moyens, ben on n'y arrivera pas.
Alors ça, le classement de Shanghai, il n'en a rien à faire. Hein,
Il n'en a rien à faire, mais indirectement. Parce que la recherche, c'est un tout. Nous avons aussi bien de la très bonne science humaine que des sciences expérimentales.
Pourquoi est-ce que les sciences humaines sont pas prises en compte ?
Pour diverses raisons, mais je pense essentiellement parce que leur mode de publication est très différent et que
que donc, techniquement, si vous voulez, c'est plus difficile. On publie moins, on publie en souvent langues qui ne sont pas l'anglais, et on publie moins dans des revues que dans des livres. Donc c'est un petit peu plus compliqué d'évaluer, entre guillemets, les sciences humaines.
Alain Béretz, l'université, ça sert à chercher, ça sert à enseigner aussi quand même. Est-ce que l'aspect pédagogique est pris en compte ?
L'aspect pédagogique n'est pas pris en compte, mais ça c'est un...
C'est quand même essentiel,
à la limite, on peut le regretter. Maintenant, là aussi, donnez-moi le thermomètre pour juger de la qualité pédagogique. Et là, en France, on sera pas devant, hein, on passe pas toujours. Je pense que le credo des universités, singulièrement à nouveau des universités de recherche, c'est de dire que c'est la recherche qui alimente tout. C'est la recherche qui est vraiment au cœur de notre démarche. Si nos enseignants sont des chercheurs de premier ordre, les étudiants en bénéficieront directement dans la qualité de l'enseignement. Et donc, clairement, de mettre la recherche en avant, ça n'est pas exclure l'enseignement, c'est au contraire démontrer que le concept même d'université, c'est cette symbiose étroite entre enseignement et recherche. Pas d'enseignement sans une recherche de qualité et pas de recherche non plus sans transmission des résultats de cette recherche, c'est-à-dire sans enseignement.
Alors, un prix Nobel peut enseigner, hein, on a le cas
en
France.
Oui, absolument.
C'est pas forcément un bon pédagogue non plus. Hein.
C'est pas forcément un bon pédagogue, c'est souvent un meneur d'hommes et de femmes, c'est un créateur de vocation. Quand on voit par exemple ce que Cédric Villani fait
le
pour les mathématiques, mathématicien, médaille Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Cédric Villani, il est venu dans notre université pour parler aux lycéens. On a rempli 3 amphis en période de vacances scolaires pour l'entendre parler avec passion des mathématiques.
C'est un cas quand même particulier.
Non, il y en a plein comme ça. Nous avons aussi, grâce à l'Académie des sciences aujourd'hui, nous avons nos chercheurs qui vont former les enseignants de maternelle et de primaire. Je crois que les chercheurs adorent enseigner, sont de bons enseignants et surtout sont de bons enseignants parce que ils savent d'où vient ce qu'ils enseignent et ils ont, excusez-moi du terme, à la fois de la passion et de l'audace. Et ça, les jeunes, ils demandent pas un enseignement stéréotypé, ils demandent à avoir en face d'eux quelqu'un qui va leur transmettre cette passion, cette audace.
De l'audace, encore de l'audace. Merci Alain Béretz, je rappelle que vous êtes président de la Ligue européenne des universités de recherche et président de l'université de Strasbourg. Merci à vous.
Alain Passerelle, Inter 13.
Direction maintenant la Syrie avec un retour sur cette ville de Minbej, désormais libérée de ses oppresseurs. Les combattants du groupe État islamique ont été chassés de cette cité qui leur servait de carrefour de ravitaillement entre la Turquie et les régions qu'ils contrôlent en Syrie. Vous avez peut-être vu ce week-end les images de ces femmes qui brûlent leur niqab imposé depuis des mois, de ces hommes qui se rasent la barbe obligatoire jusqu'ici. Scène de libération habituelle, Claude Guibal, mais la suite sera compliquée. Hein.
Oui, parce que la terreur est là encore. La ville, elle est minée. Les djihadistes ont piégé jusqu'aux théières dans les maisons et dans leur fuite, ils ont amené avec eux près de 2000 civils pour leur servir de bouclier humain. Alors se pose maintenant la question du jour d'après. Minbij, qui est une ville arabe sunnite, a été libérée par les FDS, les Forces démocratiques syriennes, une coalition armée par les États-Unis et composée à 90% de Kurdes, des Kurdes qui espèrent créer un territoire autonome à la frontière turque. Ce territoire, Minbij, pourrait en faire partie et cela inquiète la population. Il y a quelques semaines, la même question s'est posée à Tel Abyad, que de nombreux habitants arabes sunnites ont préféré quitter après avoir été libérés par les Kurdes. Un problème d'autant plus délicat que la population de Minbij, qui se méfie des Kurdes, éprouve aussi des sentiments mitigés envers la coalition internationale qui, pour la libérer, l'a pilonnée pendant plus de 2 mois, faisant plus de 600 morts parmi les civils. Et le mois dernier, une bavure a même conduit à la mort de près de 60 personnes, dont de nombreux enfants, lors d'une frappe sur une école. De quoi nourrir un ressentiment qui pourrait s'aggraver une fois passée l'euphorie de cette libération.
Merci Claude Guibal. On passe directement aux Jeux Olympiques de Rio. Avec le triomphe la nuit dernière d'Usain Bolt, le sprinteur jamaïcain n'a pas franchi la ligne comme il y a 4 ans en levant le bras 10 mètres avant, mais il a gagné, c'est l'essentiel, et pour la 3e fois consécutive dans une Olympiade. Et c'est cela évidemment qui en fera pour toujours un athlète à part, de la trempe sur la piste d'un Michael Phelps dans l'élément liquide. Pas une victoire facile donc, car Usain Bolt n'est pas un extraterrestre, lui aussi il vieillit, mais une victoire intelligente car pensée de longue date. Écoutez sur ce point l'ex-coureur de haie, Stéphane Diagana, qui a particulièrement aimé cette 3e médaille conquise au Brésil.
J'ai aimé parce que on sait que c'est ce dernier Jeux Olympiques, de le voir gagner de cette façon-là. Parce qu'il n'a pas gagné qu'aujourd'hui, à mon avis, il a gagné dès le mois de septembre l'année dernière, quand il a choisi de ne pas aller courir les meetings, qu'il a dû écouter son entraîneur qui lui a dit « tu te reposes maintenant pour pouvoir reprendre tôt, parce que tu n'as plus 20 ans maintenant et l'histoire elle est différente ». Et je crois qu'il s'est construit cette victoire dès ce moment-là, parce qu'on l'a vu arriver assez tôt en forme, il a pu gérer du coup, comme il n'était pas en retard dans sa préparation, les petits problèmes de blessures qu'il a rencontrés dans la saison, et arriver ici avec une marge suffisante pour remonter Gatlin qui était quand même bien parti, mais avec beaucoup beaucoup de facilité. Je pense qu'il est très fort et que sur 200 on va se régaler.
L'année passée ça avait été serré entre lui et Gatlin, là ça a été beaucoup plus tranquille finalement.
Oui, ça a été beaucoup plus tranquille, mais je pense que justement il a tiré la leçon, c'était l'investissement idéal qu'il lui fallait l'année dernière, et ça bah, c'est, il en a tiré les leçons pour arriver dans les meilleures conditions, pas au top mais dans les conditions suffisantes pour avoir de la marge par rapport à ses adversaires.
Stéphane Diagana au micro de Franck Ballanger. Demandez maintenant le programme des JO à suivre entre autres, et ça commence à 14h, le 10 km en eau libre avec Aurélie Muller, championne du monde en titre. L'athlétisme enfin disponible pour les non-insomniaques cet après-midi, les séries du 3000 mètres steeple avec Mayedine Meklissi, celle du 110 mètres haies également. La nuit prochaine, on verra Renaud Lavilloni en finale de la perche et Pierre-Ambroise Bosse sur le 800 mètres. À des heures chrétiennes, et c'est le moment ou jamais, aujourd'hui on suivra le cyclisme sur piste et la suite de l'Omnium, sorte de décathlon en vélo avec un Français, Thomas Bouda, en tête du classement provisoire. Côté sport-co, les handballeurs français en fin de journée contre le Danemark, c'est toujours un plaisir. Et puis la nuit prochaine, les volleyeurs français face aux Brésiliens, ambiance garantie, victoire obligatoire pour accéder au quart de finale. Enfin la boxe, ça marche très bien chez les messieurs, mais ce soir à 22h15 c'est une Française qui montera sur le ring pour son premier tour chez les moins de 60 kilos. Elle s'appelle Estelle Mosley. À Rio, elle est venue avec son fiancé. Bien obligé, monsieur est aussi boxeur. C'est Tony Yoka, poids lourd, champion du monde 2015 et qualifié lui déjà pour les quarts de finale. Un couple donc qui a du punch. Bruno Salomon.
Au village olympique, les fiancés de la boxe française font appartement commun. Tony Yoka est champion du monde, Estelle Mosley est championne du monde. Leur histoire de couple, le monde du sport la connaît, elle est même médiatique, mais ça ne gêne en aucun cas la native de Créteil.
Moi comme Tony, hein, ça ne nous gêne pas, sinon on aurait tout de suite mis un stop à tout le monde entre nous. Non, ça ne nous gêne pas du tout. C'est quelque chose de magique qu'on vit à deux, on est très heureux de le vivre à deux, donc ça fait plein de souvenirs à garder. Et puis je pense que voilà, c'est une belle histoire qu'on vit, si on peut la partager avec tout le monde, ça peut faire un peu de joie autour, pourquoi pas.
Estelle et Tony vivent d'amour et de boxe, mais aussi d'objectifs élevés, lui en plus de 91 kilos et elle en moins de 60 kilos, veulent décrocher l'or olympique. Mais madame veut aussi et surtout faire découvrir sa discipline où la France participe pour la première fois au tournoi olympique avec deux boxeuses, dont Estelle Mosley.
Je pense qu'il y a pas mal de jeunes filles qui ont cette crainte aussi d'être seule fille dans leur salle ou de prendre des coups, plein de choses, mais j'espère qu'en nous voyant, elles oublieront tout ça et qu'elles se diront finalement, c'est juste un sport.
Âgés de 24 ans tous les deux, Estelle Mosley et Tony Yoka se sont donné rendez-vous sur la plus haute marche du podium. Après, ils fixeront une autre date importante, celle de leur mariage. Rio, Bruno Salomon, France Inter.
De Rio à l'espace, curieuse pour le moins cette découverte d'astrophysique publiée il y a quelques jours dans une revue spécialisée. Une équipe taïwanaise a observé un objet non identifié derrière la planète Neptune, un objet qui ne fait rien comme les autres, Mathilde Himé.
Oui, autour de Neptune, les scientifiques ont l'habitude de trouver de nombreux petits corps qui tournent en orbite et forment la ceinture de Kuiper. Niku, le rebelle en chinois, n'est pas une planète, beaucoup plus petit, il mesure moins de 200 km de diamètre. Il est de la famille des transneptuniens. Telle une toupie, la plupart des objets célestes gravitent dans le même sens, mais pas Niku qui tourne à l'envers, il est rétrograde. D'autres objets le sont, sauf que Niku lui tourne aussi dans un axe inhabituel, presque à l'envers du plan des planètes, sur un axe tout incliné à 110 degrés. Une orbite bien étrange qui pourrait suggérer qu'une force gravitationnelle l'éloigne du système solaire, explique enthousiaste Matthew Holman du centre d'astrophysique Harvard Smithsonian, l'un des membres de l'équipe qui a découvert Niku. Les scientifiques se demandent donc si Niku ne serait pas influencé par cette fameuse 9e planète. Elle n'a jamais été observée directement. C'est en découvrant d'autres objets à l'orbite inhabituelle que les chercheurs ont posé récemment l'hypothèse de cette 9e planète. Sauf qu'ils ne sont pas sûrs que Niku soit l'un de ces objets sous influence, car il est pour l'instant le seul qui soit aussi proche de notre système solaire. Mais dans ce cas, d'où viendrait Niku ? Son comportement est bien étrange et laisse aujourd'hui les scientifiques public aussi perplexe qu'excité.
On a commencé ce journal avec la fête religieuse du 15 août. On va terminer dans la même veine avec cette particularité en Moselle. On y compte plus de 180 répliques de la grotte de Lourdes. Elles se trouvent toutes dans la partie est du département Lorrain, partie est qu'on appelle le pays de Niez, N-I-E-D. Julie Seignura s'y est rendue.
Il suffit de chercher l'église du village ou le cimetière et une fois sur deux, vous en avez une. À Vaudrechain, par exemple, déjà connue pour sa crèche animée, la grotte est colossale. 3 mètres de haut, 10 de large. Elle fête cette année ses 50 ans. Paul Straub préside le conseil de fabrique qui gère les biens de la paroisse en Alsace-Moselle.
C'était notre ancien curé, la Bellette, qui vouait une dévotion à la Sainte Vierge. Il a fait beaucoup de voyages à Fatima, en Terre Sainte. Et sous les pieds de la Vierge, il y a de la terre qu'il a ramenée de Bethléem lors de ses voyages. Tout le monde à l'époque ne pouvait pas aller à Lourdes, c'est-à-dire qu'ils ramenaient un peu de Lourdes dans les villages.
Et du coup, chaque commune a voulu avoir la sienne. À Bistène en Lorraine, c'est Rigobert Bourget qui a eu l'idée il y a un peu plus de 20 ans.
Les pierres, on les a ramassées dans les champs. Et sacré boulot, hein. Pendant 5-6 mois, on a travaillé. Hein. Tous les ans, il y a une procession de la chapelle à la grotte le soir. Et tout est illuminé par des bougies. 300, 350, 400 bougies hein, qui brûlent là. Faut voir ça. Hein.
Même chose à Narbefontaine, immense grotte, toujours impeccablement fleurie. La mère Christiane Muller y est très attachée.
Par rapport à, je dirais, à l'histoire et puis aux gens qui ont construit cette grotte, je pense que même si parfois on se dit, oh, les jeunes ils viennent plus, ils suivent plus, mais quand il faut prendre le relais, ben, ils sont là pour prendre le relais, comme nous on a fait quoi.
Et on trouve même de ces répliques dans des propriétés privées. Julie Seignura, France Bleu Lorraine pour France Inter.
Et pensez-y, c'est comme tout, à la Miaou, la grotte est toujours plus agréable.